Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes le 19 juin 2024 et depuis trois semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Aujourd'hui, c'est la dernière après-midi et on a des sujets passionnants à ouvrir. Alors dans cette matière, on étudie le fonctionnement du web et plus généralement du numérique qui est omniprésent autour de nous, dans nos poches, dans nos habitats, dans les espaces publics, dans les administrations françaises et maintenant avec le déploiement rapide de l'intelligence artificielle. Cette explosion des outils numériques pose des questions éthiques, sociales, politiques, cognitives, environnementales et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et étudiantes ont travaillé sur plusieurs problématiques en rapport avec le numérique à travers la lecture et l'écriture d'articles scientifiques. Et à la radio, ils vous restituent une partie de ce travail. Je m'appelle Quentin et aujourd'hui, je suis accompagné d'Achille, Jean-Baptiste, Mathieu et Thibaut. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Bienvenue, merci d'être venu. Et puis voilà, donc la semaine dernière, on a parlé de la récolte de données et d'influence politique sur les réseaux sociaux. Cette semaine, vous allez nous parler d'une partie beaucoup moins connue du web, qu'on appelle en fait le dark web, un sujet méconnu et souvent fantasmé. Grâce à votre travail, à la fin de l'émission, on aura une compréhension technique plus claire du dark web, mais aussi de ses conséquences sociales et politiques. Alors, chers auditeurs et chères auditrices, restez sur notre antenne, car à coup sûr, vous y apprendrez des choses. Et Achille, je crois que c'est à toi pour une introduction du sujet.
Oui. Alors, donc, comme a dit Quentin précédemment, aujourd'hui, nous allons donc vous parler de la face cachée d'Internet, qui n'est autre que le Darknet. C'est un endroit méconnu et dont souvent assimilé à de nombreux clichés. Notre monde connaît de nombreux changements majeurs dans tous les domaines, allant de l'accès à l'information au commerce. Tout est devenu plus simplifié et presque instantané. Il nous suffit de quelques clics ainsi que de quelques connaissances pour pouvoir acheter des vêtements ou communiquer avec une personne vivant à 9000 km. Cependant, c'est bien connu que toutes nos activités sur le web laissent des traces et certaines personnes dans notre société ne veulent pas être surveillées. Elles ont donc été poussées à chercher une autre façon d'utiliser Internet, afin de ne pas être suivies en permanence. C'est ainsi que le Deep Web et le Dark Web ont vu le jour. Mais qu'est-ce que le Deep Web et le Darknet ? Le Deep Web fait référence à la partie non indexée de la toile, tout ce qui n'est pas accessible aux moteurs de recherche. C'est là où résident nos données, des archives et d'autres contenus non publics. Alors que le Dark Web, lui, appartient au Deep Web. C'est un réseau avec des services cachés et il est accessible uniquement via des réseaux anonymes dont Thibaut nous parlera plus tard. Le Darknet est souvent associé à des activités illicites, mais est-ce vraiment le cas ? En tout cas, la motivation de chaque individu d'utiliser le Darknet est propre à lui. Ainsi, je vais vous montrer un extrait qui va me permettre de rebondir dessus. L'extrait s'appelle, le titre de l'extrait est le Darknet, la face cachée du web. Il a été réalisé par Sashi Schiff et Duki Dord.
There's the regular internet, and then there's something called the dark net, an underground system of anonymous websites that are untraceable.
Qu'est-ce que le darknet ? Pendant longtemps, tous ceux qui voulaient agir en secret, acheter de la drogue ou des objets volés, trouvaient que c'était très difficile à faire dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, il faut rencontrer le vendeur, et ensuite, il faut le payer d'une façon ou d'une autre. Parler du Darknet, c'est évoquer une nouvelle forme de commerce, un nouveau marché où les identités des acheteurs, des vendeurs et de l'argent lui-même échappent à la police ou à quiconque essaierait de traquer le crime ou d'autres choses.
You can find ways to launder money, hire a hitman, get guns.
The deep web is used by many to buy fake identities. Websites offer green cards, driver's licenses, and passports. Some use it for more sinister reasons, such as human trafficking or drug exportation.
Donc, comme vous venez d'entendre, cet extrait est assez problématique, puisqu'on a une définition très néfaste du darknet. Ce qu'on vient d'entendre n'est pas du tout la réalité. En effet, on pense souvent que le darknet est un espace de non-droit où tous les malfaiteurs se rendent, mais pas uniquement. Puisqu'il peut très bien y avoir des lanceurs d'alerte ou même des journalistes, évitant les restrictions dues à des régimes autoritaires. Dans la suite, Thibaut va vous essayer de vous expliquer et vous faire comprendre ce qu'est réellement le Darknet.
Donc pour commencer, chaque utilisateur d'Internet et du web représente une vaste quantité de données que cherchent à collecter les entreprises. En effet, si l'offre est gratuite, c'est que indirectement, nous sommes nous-mêmes le produit, selon Arnaud Viard. En effet, les utilisateurs du web utilisent majoritairement des services pour lesquels ils ne payent pas. Des mails, moteurs de recherche, visionnage de vidéos ou encore des réseaux sociaux. Le modèle économique dominant dans ce cas est alors d'exploiter les données récoltées à travers l'utilisation des services à des fins commerciales. Ici, on ne parle pas uniquement de données telles que l'âge ou le prénom des utilisateurs, mais possiblement leur orientation politique, sexuelle, mais encore. Elles ont recours à des publicités très ciblées dans le but d'augmenter le temps passé sur le service par les utilisateurs qui génèrent alors encore plus de données, dans une boucle qui se renforce. Mais cette plus-value permet aussi d'améliorer leurs produits, payer leurs employés et les infrastructures informatiques dont elles disposent. Cette collecte de données permet ainsi le fonctionnement des plateformes que l'on connaît bien, mais quelles en sont les conditions? Notamment le manque de transparence et potentiellement le non-respect de la vie privée des utilisateurs d'Internet dû aux collectes de données la plupart du temps non consenties. Les utilisateurs n'ont parfois même pas conscience de l'influence qu'ils subissent. Pour cela, il est possible pour chaque utilisateur d'utiliser le Dark Web, qui est un réseau partiellement légal. Il présente notamment l'avantage de la garantie d'un anonymat pour les utilisateurs. Pour rappel, le web, c'est-à-dire l'ensemble des sites que vous visitez au quotidien, repose sur un réseau matériel composé de routeurs, de câbles sous-marins, de data centers et encore qui assure le transport des informations. Chaque appareil connecté à Internet est associé à une adresse IP, identifiant unique comparable à une adresse postale. Ainsi, lorsque vous visitez un site web, non seulement ce dernier enregistre votre IP, mais n'importe qui écouterait le trafic entre vous et le site pourrait savoir que vous l'avez visité. On peut écouter un court extrait pour le constater. Le titre de l'extrait s'appelle « Le Darknet, l'ombre de l'Internet », disponible sur YouTube.
Simple, l'envoi d'un email de notre ordinateur. Nous utilisons une messagerie traditionnelle. Notre courrier électronique porte alors la signature de notre ordinateur. Cette suite de 10 chiffres que l'on appelle l'adresse IP. Grâce à elle, la connexion Internet est identifiée et localisée très précisément, ici à Paris. Nous renvoyons ensuite le même email via le Darknet, depuis le même ordinateur et du même endroit. Cette fois, notre signature numérique a changé. Elle indique que nous envoyons ce message via un ordinateur basé à Bucarest, en Roumanie. Sur le Darknet, nous agissons ainsi sous couvert d'une fausse identité numérique.
Ce qui permet l'anonymat sur le Dark Web, c'est que les données sont chiffrées par un nouveau protocole par-dessus le protocole IP, et qui est extrêmement solide et basé sur des mathématiques avancées. Comme on a pu le voir dans l'extrait, les données sont chiffrées et on a pu voir que le mail était envoyé de Roumanie alors que finalement il est envoyé de Paris. Donc par exemple, un navigateur qui permet d'accéder au Dark Web est Tor, surnommé The Onion Router. Dès lors que l'on effectue une recherche sur ce navigateur, nos données personnelles sont chiffrées, comme l'adresse IP ou la géolocalisation, puis la requête est envoyée à plusieurs relais successifs avant que la requête ne parvienne sur Internet, de la même manière que des couches d'oignons que l'on passerait successivement, d'où son nom routage en couches d'oignons, en français. L'envoi à des relais successifs est ce qui empêche le traçage. Ces dernières années, on a pu voir l'apparition des VPN, des réseaux privés virtuels, qui proposent de masquer l'IP des utilisateurs. L'inconvénient reste le fait que l'opérateur du VPN puisse connaître l'adresse IP que l'on utilise. A l'inverse des VPN, le chiffrement de Tor, qu'offre Tor, offre un anonymat complet, donc Tor offre un anonymat complet, dû à la manière dont les informations sont cryptées et transmises de routeur à routeur, donc autrement dit à travers les nœuds Tor. Cet anonymat n'est pas sans conséquence, bien sûr, car il permet à des utilisateurs malveillants de réaliser des actions illégales.
Alors, juste une petite précision, parce que c'est un sujet technique tellement compliqué que pour bien cerner. Donc, sur Tor, c'est effectivement le chiffrement qui permet d'avoir l'anonymat, parce que dans ce fameux relais, chaque nœud, c'est juste quel est le précédent nœud et quel est le nœud suivant, et du coup c'est impossible de remonter la chaîne, donc c'est bien les techniques de chiffrement qui permettent d'assurer l'anonymat. Mais en revanche, le contenu lui-même, il n'est pas chiffré. quand il sortira du réseau Tor. Donc c'est plus pour dire que si on veut avoir à la fois la confidentialité et l'anonymat, il faut s'assurer qu'on est avec le petit cadenas, le fameux petit cadenas HTTPS dans le haut du navigateur, sinon le contenu lui-même est encore exposé. Mais voilà.
Ok. Et donc... comme on l'a dit, cet anonymat n'est pas sans conséquences, donc l'anonymat offert par Tor, car il permet à des utilisateurs malveillants de réaliser des actions illégales. Ils ont pu créer une véritable économie souterraine tirée de leurs activités. Donc divers trafics ont pu voir le jour sur des réseaux du dark web, donc comme la vente de drogue, la vente d'armes, la falsification de documents, la contrefaçon ou encore la vente de malware, mais encore pire comme le terrorisme ou encore la pédopornographie. Parmi les drogues interdites dans de nombreux pays, on peut notamment retrouver en vente du cannabis et ses dérivés, ou encore des stimulants comme la cocaïne, l'ecstasy ou la MDMA. Il est également possible de se procurer des armes blanches allant du couteau au katana, ou encore des armes lourdes allant du pistolet au bazooka. Ces armes sont strictement interdites à la possession, bien sûr. Toutefois, les achats de ce type d'armes restent bien régulés entre les pays par les mesures douanières. Le dark web regroupe ainsi des vendeurs, des consommateurs qui se transforment en acheteurs s'ils ont la possibilité d'effectuer des échanges monétaires pouvant maintenir leur anonymat. En effet, les échanges bancaires étant en majorité tracés et contrôlés, l'utilisation de crypto-monnaies comme le Bitcoin permet de garder l'anonymat dans les transactions. Ainsi, ces commerces peuvent exister sans banque, ni surveillance, ni taxes gouvernementales. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'UNODC, la totalité des bénéfices sur le dark web est estimée à environ 315 millions de dollars annuels. En revanche, le marché mondial de la drogue est estimé à environ 500 milliards de dollars. La vente illégale sur le dark web ne représente donc qu'une faible partie du commerce souterrain. Malgré cet aspect néfaste, le dark web offre l'anonymat sur Internet pour des individus soucieux de leur vie privée. Mathieu va ainsi vous présenter l'impact de cet anonymat en ligne.
Bonjour, nous allons parler à présent plus en profondeur de l'anonymat en ligne, et plus particulièrement sur le Darknet. Comment faire confiance sur le Darknet et en quoi cet anonymat permet au Darknet de se distinguer du web? Cette première partie citera principalement l'article « Idées en confrontation, confiance et anonymat au sein des Darknet Market » de Arnaud Stéphane. Dans un marché économique classique, des autorités existent afin de réguler et veiller à la qualité des produits et des services proposés. Cela est fondamental pour que les acheteurs acceptent de prendre le risque d'acheter et donc de faire vivre le marché en question. Sur les marchés du Darknet, de tels organismes ne peuvent pas exister afin de conserver l'anonymat. Et pour cette raison, des systèmes doivent être mis en place afin de créer un lien de confiance entre vendeurs et acheteurs. La même problématique se pose sur toute autre utilisation du Darknet. Comment croire aux informations venant d'un utilisateur dont l'identité est totalement inconnue? Cela passe principalement par une identité numérique que les utilisateurs du Darknet doivent mettre en avant. Cette identité présente une accumulation d'informations qui permettront de prouver sa qualité et fiabilité. Par exemple, entretenir une réputation, une sorte d'image de marque, est la stratégie principale employée dans les marchés du Darknet afin de créer un lien de confiance entre vendeurs et acheteurs. Il est intéressant de noter que les interactions entre utilisateurs sur les différents serveurs du Darknet sont parfois également régulées par des modérateurs qui représentent une image de référence et de fiabilité. Nous allons à présent écouter un extrait qui vient du même reportage.
L'un des trafics les plus répandus, c'est celui des coordonnées de cartes bancaires, symbolisées par les lettres CC. C'est ici que notre hacker se fournit. Ce sont des dizaines de cartes vendues. Des cartes de victimes qui ont été piratées. Le trafic de ces données est considéré comme de l'escroquerie. Un délit passible de 5 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Mais cela n'empêche pas des dizaines de pirates de vendre ces données bancaires entre 10 et 100 euros. Des prix fixés en fonction du potentiel des données à exploiter, mais aussi de la capacité d'achat de la victime. Les cartes à 10 euros n'intéressent d'ailleurs pas notre hacker.
C'est une électron, donc bon, ça c'est un peu nul. C'est les cartes qu'ont ceux qui ont 15 ans. C'est nul, quoi.
Des cartes pour ados avec un faible pouvoir d'achat. Notre hacker, lui, préfère celles vendues un peu plus chères, mais qui lui permettront de dépenser sans compter.
Une carte de tout ce qu'il y a de plus classique, c'est en moyenne entre une vingtaine et une trentaine d'euros. Pour avoir une carte ayant un plus grand plafond, une carte de type premier par exemple, bah là, bah, faut s'attendre à débourser plus d'une centaine d'euros.
Il est intéressant de noter dans cet extrait que le ton pris par le média est assez dramatique et sensationnel. La plupart des reportages ou articles de journaux aiment dépeindre le Darknet comme un lieu dangereux, plein de criminels sans foi ni loi. Est-ce un portrait légitime ? Eh bien, il est intéressant de se poser la question, et la réponse risque d'être beaucoup plus nuancée que ce que laissent entendre la plupart des médias. Pour commencer, près de la moitié des sites hébergés par le réseau Tor concernaient des activités tout à fait légales. Comment expliquer cela ? Tout d'abord, le Darknet constitue un outil capital pour les citoyens dirigés par des gouvernements autoritaires. Par exemple, Wikipédia est bloqué en Chine. Ainsi, son service caché sur le réseau Tor permet un accès à l'information supplémentaire au peuple chinois. Échapper aux lois permet alors d'exprimer des droits légitimes et fondamentaux, tels que la liberté de s'informer ou de s'exprimer. Pour la même raison, le dark web est également nécessaire aux journalistes pour protéger leurs sources. Nous pouvons finalement citer Wikileaks, un média du Darknet qui a pour objectif de donner une plateforme sécurisée aux lanceurs d'alerte. Et même chez les gouvernements démocratiques, l'utilisation du dark web a une réelle utilité. En effet, il constitue la possibilité de bénéficier de services numériques en toute confidentialité, c'est-à-dire sans collecte de données personnelles par les GAFAM notamment. Le Darknet constitue ainsi un réel angle mort dans lequel les individus s'organisent et se réunissent d'une manière indépendante des législations, que ce soit autour d'activités illégales, mais également en grande partie d'activités légitimes et des fois nécessaires.
Merci beaucoup Mathieu. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est toi Jean-Baptiste qui va terminer en tout cas votre exposé en nous parlant de la place de l'État, parce que là on se demande quand même où il est dans toutes ces activités sur le dark web.
C'est ça. Au cours de mon passage radio, je vais vous présenter la place de l'État au sein, des États au sein du Darknet. On va tout d'abord explorer comment les États se positionnent dans la lutte contre les activités illégales sur le Darknet. Pour commencer, concentrons-nous sur les efforts des États-Unis et de l'Europe. Aux États-Unis, la NSA, ou plutôt National Security Agency, est en première ligne de cette bataille. Basée dans le Maryland, cette agence du département de la défense est célèbre pour son rôle dans l'analyse des échanges électromagnétiques et la surveillance des systèmes d'information américains. Elle possède un monopole global dans ce domaine, opéré directement sous la tutelle du gouvernement américain. La NSA utilise ses programmes de surveillance pour infiltrer et surveiller le Darknet. Par exemple, la NSA travaille en étroite collaboration avec le FBI et d'autres agences afin de démanteler des réseaux criminels opérant sur le Darknet. Grâce à ses programmes sophistiqués comme XKScore, un système de surveillance informatique qui permet aux analystes de collecter et d'analyser des données sur des utilisateurs à l'échelle mondiale, cela inclut la surveillance des forums de discussion et des marchés illégaux où se vendent drogues, armes et autres produits illicites. En Europe, l'équivalent de la NSA est l'ENISA, l'Agence de l'Union Européenne pour la cybersécurité. Elle sécurise les réseaux et informations au sein de l'UE, analyse les menaces et aide les États membres à renforcer leur capacité de cyberdéfense. L'ENISA collabore étroitement avec des institutions internationales pour élaborer des stratégies de défense contre les cybermenaces. Par exemple, des opérations conjointes telles que l'opération Onimus, qui a démantelé Silk Road, un site principalement reconnu pour la revente de drogue, illustre l'efficacité de cette collaboration transnationale. Nous avons frappé des services utilisant Tor et le Darknet, où pendant longtemps les criminels se pensaient hors d'atteinte. Nous montrons désormais qu'ils ne sont ni invisibles ni intouchables. Les criminels peuvent courir, mais pas se cacher, s'est félicité le directeur du nouveau centre européen de la cybercriminalité, Charles Worthing, d'Europol. Le Darknet est totalement anonyme. Qu'il est impossible d'utiliser les techniques d'interception classiques. C'est pourquoi la cryptographie masque la provenance des requêtes. La NSA a même développé un programme secret pour tenter d'affaiblir ces techniques, publiant des articles scientifiques avec des failles cachées. Passons maintenant aux mesures spécifiques mises en place par les États pour contrer les activités illégales sur le Darknet. Du côté de la législation, il est difficile car l'anonymat complique le travail des forces de l'ordre pour identifier les cybercriminels. À moins d'interdire complètement l'accès au dark web, il est impossible de n'autoriser que les activités légales. Les États utilisent des techniques d'espionnage, d'infiltration et d'ingénierie sociale. Ces enquêtes dignes de films d'espionnage et pouvant même durer plusieurs années aboutissent souvent à des arrestations coordonnées et massives entre nombreux pays. Afin de mener à bien ces enquêtes, voici un extrait du Grand JD invitant à un enquêteur reconnu expliquant les différentes techniques mises en place par les autorités.
C'est quoi le futur d'Alphabet? Là, le site continue à vivre. Alors, il y a des transactions, il y a des choses qui se passent.
Il y avait un autre marché du Darknet qui s'est fait stopper au même moment que Alphabet en 2017-2018 qui s'appelait Hansa. Et Hansa, les services secrets allemands et ceux du Pays-Bas ont laissé la plateforme ouverte volontairement, en se faisant passer pour l'un des administrateurs pour continuer d'accumuler des informations sur les clients, sur les trucs. Donc tu vois, donc c'est chaud. C'est-à-dire que même la police derrière, quand elle t'arrête, elle n'est pas en mode « bon, bah ça y est, écran, fin, rideau ». Pas forcément. Si elle a envie de laisser le marché encore ouvert et récupérer des infos sur les clients, sur les criminels, sur les trucs, elle peut le faire. Et elle l'a fait avec Hansa. Donc pour moi, The Snake, Alphabet, ça peut très bien être la CIA derrière. Genre vraiment.
Comme vous avez pu le constater, une méthode courante est le piratage de plateformes, de forums ou de chats sur le dark web, permettant de collecter des informations sur les activités criminelles, d'identifier les participants et de surveiller les communications tout en perturbant les réseaux criminels. Par exemple, lors de l'opération Pacifier, le FBI a piraté le site de pornographie juvénile Playpen, avec la même méthode que celle évoquée dans l'extrait précédent. Plutôt que de fermer immédiatement le site, ce dernier a été maintenu en ligne afin de collecter des informations sur les utilisateurs, de les identifier et d'arrêter les personnes impliquées dans ces activités criminelles. Une autre technique de piratage utilisée par les services de police consiste à se faire passer pour des vendeurs sur un cybermarché du Darknet. Avec l'autorisation d'un juge et pendant une période déterminée, les policiers peuvent recueillir des demandes d'achat, entrer en contact avec les acheteurs et les arrêter lors de la livraison. Par exemple, dans l'opération Bayonnais, les forces de l'ordre se sont infiltrées sur Alphabet et ont réussi à démanteler ce réseau criminel.
C'est ainsi que nous allons bientôt conclure cette émission. Pour résumer, nous pouvons dire que la montée en puissance d'Internet a transformé notre monde, rendant l'accès à l'information et les échanges plus faciles que jamais. Cependant, cette évolution a également accru la surveillance en ligne, incitant certains à chercher des moyens de préserver leur confidentialité. C'est ainsi que le Deep Web et le Dark Web sont apparus, offrant des alternatives. Le Dark Web est un espace où coexistent activités légales et illégales. Il permet la liberté d'expression et la confidentialité, cruciales pour les journalistes, les lanceurs d'alerte et les citoyens sous régime autoritaire. Mais il abrite aussi des activités illicites, telles que la vente de drogue, d'armes et d'identités falsifiées. Je ne finirai cette émission en disant que non, le Darknet n'est pas une zone de non-droit. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui de ce sujet. Un grand merci de nous avoir écoutés, en espérant que cela vous ait plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on va vous répondre.
Eh bien, merci à vous quatre pour votre intervention. Et des questions, il y en a. Alors, pour pas mal d'entre elles, vous avez déjà répondu dans vos interventions successives. Donc, déjà, bravo pour ça. On commence peut-être par une question de Gabriel qui demande « Est-ce qu'il existe d'autres solutions similaires à Tor, donc qui feraient partie du dark web qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ici ?»
Alors, ouais, complètement. En fait, donc Tor, comme on a pu le dire, c'est pour naviguer sur le web normal, sans révéler son adresse IP, mais également d'autres réseaux, comme le réseau I2P, qui permet la communication entre deux ordinateurs, tout protocole confondu, comme le web, le FTP, sans révéler son adresse IP, ou encore Freenet, pour publier des documents, des pages web, des PDF, des images vidéo, de manière anonyme et résistant à la censure.
Merci beaucoup. Julien demande, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le système d'anonymat du Darknet devienne la norme sur le web classique dans le futur ? Et moi, je rajouterais, c'est quoi les obstacles qu'on pourrait avoir à cette expansion ?
Alors, est-ce qu'on peut s'y attendre ? Ça, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait vraiment répondre à cette question. Par contre, je pense qu'il y a des obstacles, parce que le web actuellement fonctionne. Le modèle économique du web, c'est de fonctionner grâce à la publicité. Et en fait, la publicité ciblée est basée sur les données personnelles. Sur le Darknet, tout le monde est anonyme, on n'a pas de données personnelles, donc il n'y a pas de publicité ciblée. Donc, d'un point de vue de modèle économique, il y a, je pense, pas mal d'obstacles pour arriver à un système de web généralisé, totalement anonyme. Mais par contre, je pense que c'est un système qui plairait à beaucoup de personnes, en tout cas, à ce qu'il se démocratise dans le futur, parce que c'est un système, comme on en a parlé, qui a plein d'avantages au niveau de la confidentialité, mais aussi au niveau... plein d'avantages et aussi plein de désavantages, mais il y a des avantages notables, comme au niveau de la confidentialité, comme je l'ai dit, et au niveau des systèmes de censure et d'oppression qui sont détournés par un web comme ça.
Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, pour rentrer dans un système d'anonymat complet, si on peut dire, il faudrait sortir des entreprises qu'on a actuellement, par exemple les réseaux sociaux, si on veut donc avoir un anonymat complet, ne plus utiliser des réseaux comme Instagram ou autre qui, eux, collectent nos données. Ça commencerait par là, par exemple. Et donc, si chacun faisait ça, évidemment, on aurait un réseau anonyme, mais ça impose... Enfin, ça pose plein de problèmes, comme être en marge de la société, car on ne veut pas forcément ne plus se retrouver sur le réseau social que tous nos amis utilisent, par exemple.
C'est plus une refonte de la société en global, je pense, de ce fait.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que ça dépasse la simple idée de l'anonymat, parce que si on se connecte sur son compte Insta en utilisant Tor, bah, au final, on est quand même en train de donner toujours des données personnellement identifiables à Instagram. Donc voilà, quoi, ça ne résout pas tout le problème. Elsa demande, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus comment l'établissement du lien de confiance entre un vendeur et un acheteur se fait sur le dark web ?
Donc sur le dark web, l'établissement du lien de confiance, bah, c'est une problématique, parce que comme tout le monde est anonyme, on ne connaît pas son vendeur, donc on ne sait pas si le vendeur va réellement nous donner le produit qu'on veut acheter, réellement nous fournir le service qu'on a demandé. Et donc c'est une problématique, et est-ce qu'on peut parler de lien de confiance ? On ne sait pas, peut-être c'est plus une routine, mais en général, ce qui se fait, c'est que chaque vendeur a un compte anonyme, et ce compte présente une accumulation d'informations, par exemple le nombre de ventes, des fois il a même une note, donc une note que les acheteurs lui donnent. Des fois, il a des sortes de validations, comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc, les modérateurs des sites de vente peuvent mettre une sorte de validation au vendeur pour dire que c'est pour confirmer, en tout cas, la fiabilité du vendeur. Évidemment, le tout est anonyme. Donc, malgré ces informations présentées, on n'est jamais à l'abri à ce que le vendeur fournisse un produit de mauvaise qualité ou que d'un coup, vous arnaque et... il n'y aura pas de conséquences, si ce n'est peut-être la suppression de son compte par les modérateurs.
Je pense que c'est vraiment ce système de confiance qui fait partie, parce que c'est exactement la même mise en place que fait les services de police pour récupérer les informations et ensuite capturer les cybercriminels. Donc je pense que c'est vraiment ce signe de confiance qui est le prédominant.
Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. C'est pas une confiance absolue, mais on ne peut jamais faire mieux sans révéler son identité. C'est dur de donner des gages de confiance complets. Et du coup, alors un peu toujours sur les questions de marchés illégaux, Anna demande comment est-ce que nos informations personnelles, comme nos données bancaires, comme on a pu l'entendre dans l'extrait, peuvent se retrouver sur le darknet ?
Bah, y a plein de manières différentes, hein. Je pense qu'une des manières, en tout cas la manière sur laquelle je suis plus tombé, c'est tout simplement des gens qui font tomber leur portefeuille ou qui sont volés leur portefeuille, et leurs données internet, leurs données personnelles sont diffusées sur internet et sont vendues tout simplement. Donc en général, ça vient de personnes qui perdent leurs données, ou peut-être des personnes qui se font voler leurs données sur internet par des cybercriminels. Et qui retrouvent leurs données personnelles sur des marchés du darknet.
On entend aussi beaucoup parler, par exemple, aux informations, des fois que des centres de données ou même des hôpitaux se font hacker. Et donc c'est typiquement là où on peut se faire voler nos données, de santé, ou même nos données, nos cartes vitales, plein de types de données comme ça. Et donc c'est là où ces hackers peuvent les revendre sur le darknet, parce que ça leur offre l'anonymat.
Exactement. Tu voulais rajouter quelque chose ?
France Travail, donc anciennement Pôle Emploi, qui avait été piraté récemment. Et c'est donc dans ces zones-là, c'est quand il y a des piratages comme ça, où il y a des collectes de données massives. Et puis on n'arrive pas après à retracer, à savoir qui a piraté et comment ces données, qu'est-ce qu'ils ont volé comme données. Et donc après, c'est compliqué pour savoir qu'est-ce qui a été réellement mis sur le darknet ou pas.
Oui, tout à fait. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans le sujet, mais tu l'as évoqué, Thibaut, je crois. Vu qu'on échange avec des crypto-monnaies telles que Bitcoin ou Monero sur Darknet, ces monnaies, dans une certaine mesure, offrent aussi une forme d'anonymat. Donc, si on mélange Darknet, Bitcoin, en fait, on a un anonymat à la fois financier et puis sur l'identité civile, quoi. Allez, quelques questions encore. Deux questions que je trouve intéressantes, qui permettront peut-être de repositionner un peu pourquoi est-ce qu'on utilise le dark web, ou pourquoi est-ce qu'on utilise d'autres outils, de Alena et Gurvan, qui demande est-ce qu'il y a un réel avantage en tant qu'utilisateur lambda de choisir d'utiliser le dark web plutôt que des solutions donc, que nous on a vu en cours en WE1, mais comme des services alternatifs comme ceux proposés par l'association Framasoft ou d'autres, le chiffrement de bout en bout qui permet de s'assurer que le contenu d'un message qu'on envoie à quelqu'un n'est techniquement lisible que par le destinataire, ou à des extensions de navigateurs comme uBlock Origin qui permet de bloquer la pub, de bloquer les trackers, etc.
Alors, donc, tout d'abord, comme ça a été dit, en fait, sur le Darknet, on n'a pas uniquement des activités illégales, on a aussi des activités légales. Et donc, le fait, des fois, d'utiliser des réseaux comme Tor, ça permet aussi de protéger d'autres personnes, par exemple des lanceurs d'alerte ou d'autres qui sont sous des régimes autoritaires. Et donc, sur le Darknet, on ne retrouvera pas uniquement que des activités illégales. Et donc, c'est surtout ça aussi l'avantage d'utiliser, pour un utilisateur lambda, je pense, d'utiliser le Darknet plutôt que d'utiliser des chatons. Après, ça revient souvent au même, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais l'avantage, pour moi, majeur, c'est celui-là. Après, c'est d'autres.
Aussi à noter que le Darknet, c'est quelque chose qui est relativement plus répandu et plus connu que des chatons, par exemple. Donc, on peut trouver une plus grande diversité de services qu'on ne peut pas trouver dans des services libres, comme on dit. Et oui, comme on a dit, en fait, ça permet surtout de aussi s'émanciper de l'autorité de la surveillance au niveau de l'État. Alors qu'à partir du moment où c'est sur le web, même si c'est chiffré, il y a la législation qui va régner sur le contenu.
Oui, tout à fait. Donc du coup, il faut vous l'avez exprimé plusieurs fois, mais bien rappeler que le dark web va protéger l'anonymat, mais pas forcément les données qui sont transmises en elles-mêmes, parce que elles arrivent à un serveur qui peut les utiliser comme il veut. Donc voilà, si vous avez un compte YouTube, un compte Instagram ou n'importe quoi, et que vous allez sur ces sites-là à travers le dark web, et que vous êtes connecté à votre compte, globalement, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi, en termes de protection de la vie privée. Et donc, pour terminer, une dernière question. Anna demande, est-ce qu'il serait possible, elle a dit enviable, mais en vrai, j'ai envie de poser possible, déjà comme question, d'avoir un système complètement anonyme à grande échelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est techniquement possible de faire monter le Darknet et que des dizaines de millions de gens, voire des milliards, l'utilisent tous les jours, à votre avis ?
En soi, j'ai envie de répondre oui. Parce qu'en fait, le Darknet, ça se base sur l'utilisation d'Internet, en fait. Donc, comme Internet est très répandu, le Darknet, ça s'appuie d'Internet pour exister. Et donc, à ce moment-là, si Internet peut exister, on pourrait avoir la même chose pour le Darknet, en fait, parce que ça s'appuie dessus. Donc, dans la même logique, on pourrait avoir un réseau anonyme à grande échelle. Le seul problème qu'on peut voir, c'est si chaque donnée doit par exemple, pour le réseau Tor, chaque donnée doit transiter entre chaque routeur, c'est ça qui pourrait poser un problème. Mais en soi, Internet fonctionne aussi d'une façon... pas de la même façon du tout, mais il y a aussi un échange entre serveurs. Donc,
Je dirais la même chose, parce que tout le monde peut avoir accès au Darknet, tout le monde peut se connecter à Tor, donc si on veut, à partir de maintenant, tout le monde peut se connecter à l'instant T sur le Darknet avec Tor, etc. Tout le monde peut le faire, quoi.
Ça serait plus un problème, pour moi, technique, en termes d'infrastructure. Par exemple, les sociétés comme Google, les grandes sociétés ou Microsoft, elles ont des data centers, donc elles peuvent répondre à ces besoins, alors que sur le Darknet, c'est plus ou moins des personnes qui utilisent leurs ordinateurs comme moteur. Et donc, on arrive, faudrait des infrastructures énormes, et c'est surtout ça, je pense, la limite aujourd'hui.
Et ça, c'est extrêmement intéressant que tu rappelles ça. Tu voulais dire quelque chose ? Ok. C'est extrêmement intéressant que tu rappelles ça, parce qu'on pourrait se dire, mais comment ils gagnent du pognon, les gens du Darknet, quoi ? Parce qu'en fait, justement, tout est anonyme, c'est intraçable. Et donc, en fait, les nœuds, les serveurs par lesquels transitent les requêtes pour être anonymisés, c'est souvent des associations qui reçoivent des dons, qui reçoivent des subventions, voire même des particuliers qu'opèrent ces serveurs-là. Et en fait, si on voulait généraliser, ils nous en fendraient des millions, des dizaines peut-être de millions, et je ne suis pas sûr que, effectivement, des géants du numérique soient prêts à utiliser ce genre de choses, parce que ce n'est pas exactement leur modèle économique. Et donc, comme tu l'as dit, il faut avouer qu'aujourd'hui, le Darknet, c'est lent, quoi. Franchement, tout le monde peut télécharger là demain Tor et puis essayer d'aller sur un site juste Wikipédia et tout. Enfin, c'est clair que vous n'allez pas vous taper un catalogue Netflix avec, quoi. Ok, bah du coup j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette plongée dans l'univers jusqu'alors mystérieux du Dark Web. Quant à nous, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour le dernier sujet de la saison. Et puis après, on se retrouvera l'année prochaine. Bon après-midi à celles et ceux qui nous quittent. Salut à tous. Ciao.